France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau département. C'est le Lot qui est à l'honneur à la mi-journée à partir d'aujourd'hui. Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros est à Limogne en Quercy. Et dans les carnets de campagne, on entame un inventaire non exhaustif d'initiatives remarquables. Aujourd'hui, je donne la parole à une couturière qui a créé une entreprise pour valoriser la laine locale. Elle fabrique des sacs isothermes, des glacières écolo, made in France. Et ensuite, on passe un coup de fil à une prof en lycée d'agriculture à Figeac. Elle est en train de créer un espace de discussion autour de l'usage des pesticides. Faire dialoguer des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, c'est toujours une bonne idée. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
De l'aluminium et du plastique. Voilà en général de quoi sont faits les sacs isothermes dont on se sert pour transporter un pique-nique, par exemple. Eh bien, voici une entreprise du Lot qui commercialise des sacs à dos, des cabas, des housses de bouteilles isothermes et éco-responsables. À base de laine, cette entreprise s'appelle le Mouton Givré. Bonjour Cynthia Borne.
Et bonjour Dorothée.
C'est vous, le Mouton Givré. Vous êtes l'une des deux créatrices de cette entreprise qui est basée à Cambes, pas très loin de Figeac. Alors, je vous ai déjà donné la parole il y a 3 ans dans les carnets de campagne. Depuis, vous avez fait pas mal de chemin. Et le point de départ de tout ça, ça a été votre rencontre avec des éleveurs de moutons. Ils cherchaient un débouché pour leur laine.
C'est ça. Ils cherchaient un débouché parce que, ben, on le sait, on en parle bien assez. Aujourd'hui, la laine est un défi puisqu'on ne sait plus quoi en faire. Personne ne l'arrache et surtout la rachète correctement. Donc les éleveurs se retrouvent avec des montagnes et des montagnes de laine. Depuis le Covid, plus rien ne part. Donc c'est une catastrophe pour eux.
Donc que devenait leur laine avant que vous n'existiez ?
Eh bien, où elle était envoyée à l'étranger, à un très bas prix, puisque ça ne couvrait plus du tout les frais de tonte. Ou il y en a qui l'enterraient, la brûlaient, On avait des gros problèmes pour la faire partir.
Il faut sans doute préciser que les éleveurs de moutons sont obligés de tondre régulièrement leur bête pour la santé de l'animal, et donc il faut en faire quelque chose de cette laine ensuite.
C'est ça, il faut en faire quelque chose, on est obligé de la tondre, puisque ça pousse tous les ans comme un cheveu, hein. Nous on va chez le coiffeur, ben... Le mouton aussi y va, donc il fallait trouver une solution. Et nous, comme on est toutes les deux couturières, avec Elodie, ma collègue, et mon associé, on sait très bien que la laine est un très bon isolant. Donc nous, le projet, c'était de faire un sac isotherme complètement éco-responsable. Donc voilà.
La laine, en effet, est un bon isolant, mais est-ce que ça marche aussi bien que les isothermes traditionnels ?
Eh bien oui, ça marche aussi bien, même pour certaines mieux, pour certains moments de l'année, puisqu'on va garder le repas au frais entre 4 à 6 heures, le chaud jusqu'à 3-4 heures et le surgelé 1h30. Donc c'est vraiment une efficacité aussi performante que les autres et surtout c'est éco-responsable, c'est naturel et on a la matière qui est déjà là, on n'a pas besoin de la créer comparé à de l'aluminium et du plastique.
Voilà, en effet la laine est sur place. D'où viennent précisément vos matériaux ?
Alors nous, notre laine vient à 20 km autour de l'atelier puisqu'on la récolte nous-mêmes chez les éleveurs au moment de la tonte. On la trie, on la fait laver dans le Gévaudan et feutrer dans le Limousin. Puis après, on a le lin à l'extérieur qui est un naturel puisqu'on n'a pas de teinture. On a une toile de lin sur l'extérieur qui permet de maintenir la laine. Et là, cette toile de lin vient du nord de la France et est tissée dans les Vosges. Et après, on a de la sangle et du sergé sur le côté qui est un peu plus clair, mais qui est du chanvre. Voilà. Et le chanvre, lui, par contre, vient de Roumanie. On espère bientôt d'avoir quelque chose de France et ça risque de ne pas tarder. Mais en tout cas, pour le moment, on travaille avec les Roumains.
Oui, parce que la filière chanvre est en train de se constituer. Hein.
C'est ça. La filière chanvre est en train de revenir. Donc, on est très heureux de pouvoir arriver à faire peut-être bientôt un produit 100% français.
Votre entreprise a 6 ans aujourd'hui. Vous l'aviez baptisé le Mouton Givré parce que le projet semblait un peu dingue, disons-le. Et aujourd'hui, comment ça va ?
Aujourd'hui, ça va. On a eu des moments difficiles comme tout le monde, hein, parce que le secteur textile quand même souffre. Mais ça va, on est très contente parce qu'on a heureusement des journalistes comme vous qui nous mettent en lumière. Et aujourd'hui, les gens nous découvrent et on est submergés de commandes, puisque pour l'instant, nous sommes en précommande. suite à d'autres passages dans d'autres émissions. Mmh.
Vous êtes en précommande, ça veut dire que si je vais sur votre site internet maintenant, j'aurai pas tout de suite mon sac isotherme.
C'est ça, vous l'aurez pas tout de suite, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir être patient. 4 semaines, il faudrait attendre.
C'est la rançon du succès ça, Cynthia.
C'est ça, c'est ça.
Quels sont les retours des éleveurs avec qui vous travaillez? Ça a changé leur vie, hein, j'imagine.
Ah bah, ils sont très contents parce qu'ils ont les granges vides. Voilà, déjà. Et surtout parce que nous, on les paye correctement. On les paye vraiment au-delà du prix actuel parce que la laine aujourd'hui est à 5 centimes du kilo. Nous, on la paye 1 euro du kilo. Donc, c'est sûr que pour eux, il y a moins de frais de tonte, même si ça couvre pas encore complètement la tonte. Mais au moins, il y en a beaucoup moins. Et pour eux, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Ils sont très contents aussi de voir des produits aussi qualitatifs avec leur laine.
Et vos clients, clientes sont parfois sceptiques, j'imagine, sur les qualités isothermes de la laine. C'est vrai que c'est pas forcément intuitif, hein.
Oui, c'est ça. C'est pas intuitif, mais après, quand on leur explique vraiment les propriétés et qu'on leur montre, ils nous disent, ben oui, en fait, pourquoi on n'y a pas pensé? C'est vrai. Donc, et après, quand ils testent, ben ils reviennent, parce qu'on a des gens qui ont toute la panoplie, d'autres qui les offrent à tous les cadeaux d'anniversaire ou autre. C'est le cadeau qui vient direct plutôt que d'acheter des fleurs ou autre. Ben, on achète un mouton givré.
Oui, à condition d'anticiper un peu. Hein. Il y a 4 semaines de délai.
C'est ça.
Donc. Vos produits sont en vente sur votre site internet. Le mouton givré, entreprise basée à Cambes, dans le Lot. Merci beaucoup, Cynthia.
Ben, merci à vous, Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.
À vous aussi.
France Inter. Carnet de campagne.
Et nous voici à présent à Figeac, au lycée agricole de Figeac, établissement scolaire qui s'appuie sur une ferme avec notamment de l'élevage pour que les élèves apprennent sur le terrain. Et ce lycée doit bientôt accueillir un espace de dialogue baptisé écolieu, un endroit pensé pour améliorer la communication entre le monde agricole et la société civile, notamment sur le sujet sensible des pesticides. Bonjour Pauline Herbemont.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes ingénieure en agriculture de formation, Pauline. Vous avez exercé plusieurs métiers différents, notamment professeur d'économie. Et c'est vous qui portez ce projet d'écolieu à Figeac. Comment est-il né? D'où est venue cette idée?
Alors, il y avait un précédent projet qui avait été financé par le programme Ecophyto sur le territoire de l'Occitanie, où il y avait 5 lycées agricoles qui sont arrivés d'ailleurs à arrêter le glyphosate sur leur ferme, sur leur exploitation agricole, et qui devaient faire changer le territoire autour d'eux pour aller dans cette dynamique. Et en fait, il y a eu le Covid pendant ce moment-là, et du coup, ils n'ont pas pu faire la partie territoire. Et donc là, en fait, à la fin de ce projet, en 2022, ils ont dit non, mais il faut vraiment qu'on crée un tiers-lieu, un lieu où on puisse parler de tout ça ouvertement, et c'est pour ça qu'ils ont eu envie de créer cette école-lieu.
Voilà, école-lieu, en effet, plutôt qu'écolieu, il y a deux L. Hein.
C'est ça, avec un apostrophe.
Espace de dialogue, disais-je, entre les agriculteurs et la société civile. Vous sentez que c'est indispensable aujourd'hui?
Oui, c'est complètement indispensable parce qu'en fait, chacun reste dans l'entre-soi. On discute avec des gens qui nous sont proches et les réseaux, en plus, ils favorisent ça encore plus. Et même les agriculteurs discutent avec des gens qui leur sont proches. En fait, c'est beaucoup plus agréable de discuter avec des gens avec qui on est d'accord. Et ben là, justement, le but, c'est de faire l'effort d'aller rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et nous, on peut le faire parce qu'on est un lycée public, un lycée agricole public. Et donc, on est là pour accueillir toutes les paroles. On n'est pas neutre, puisque nous, on suit les directives du ministère de l'Agriculture. Et donc, on va vers l'agroécologie. Mais on accueille toutes les paroles et on essaie de faire se rencontrer les gens.
Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas neutre dans le sens où vous n'êtes pas pro-pesticides.
Non, c'est ça.
Et quelle forme prendra cet espace de dialogue?
Alors, pour l'instant, c'est une forme déstructurée, on va dire. C'est porté par le lycée. Donc, moi, j'ai un tiers temps pour animer ça. On a déjà fait des expérimentations sur, par exemple, la santé globale qu'on met en place sur l'exploitation ou on commercialise la viande de l'exploitation sur notre lycée, par exemple, et c'est pas si simple. Voilà, des expérimentations comme ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y ait un lieu qui puisse faire se rencontrer les gens et qu'on sache qu'on peut venir pour organiser des choses. En fait, ça sera porté par plein d'acteurs du territoire, par exemple par l'agence de l'eau, par la chambre d'agriculture, par une coopérative qui veulent faire des sujets sur l'agroécologie et qui veulent faire avancer ce thème-là. En fait, on est vraiment un outil du territoire.
Est-ce que vous sentez que les professionnels de l'agriculture sont en demande de ce type de structure?
Oui, complètement. Et on est vraiment étonnés et agréablement étonnés du retour qu'on a sur le territoire et vraiment de la dynamique et de l'enthousiasme D'ailleurs, dans le groupe projet qui va se réunir là 7 jours pendant un an pour créer vraiment physiquement l'écolieu, ben on est 25 personnes, autant des associations, des élus, des coopératives, des techniciens, des syndicats de rivière. Voilà, c'est vraiment très large et ils sont là, quoi, présents. Et 7 jours, c'est pas rien. Donc, de donner ce temps-là, on les remercie vraiment, c'est super.
L'écolieu sera aussi un centre de ressources, Pauline.
Oui, en fait, on va faire un observatoire des pratiques. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les fermes, entre eux, les élèves, les profs, les conseillers agricoles aussi du territoire, les techniciens. L'idée, c'est quand on voit quelque chose qui marche sur notre territoire, où on a un climat bien spécifique, on a des sols bien spécifiques, bien de le faire remonter et qu'on puisse le mettre en lumière. En fait, aujourd'hui, le futur existe déjà, les solutions existent déjà, mais on les voit pas. Et le but de l'écolieu, c'est vraiment de les mettre à disposition de tout le monde.
Quelle est l'ampleur de l'utilisation des pesticides sur votre territoire ?
Alors, ils sont très peu utilisés, ça dépend à qui on se compare, en fait. Si on compare aux zones de grande culture ou aux zones de viticulture, d'arboriculture, c'est vrai qu'il y en a très peu parce que c'est un territoire d'élevage avec beaucoup de prairies. Par contre, les diagnostics montrent qu'il y a quand même 95% des sources, des captages d'eau potable qui ont des traces de pesticides. Donc, vous voyez que même très peu, finalement, on se rend compte que il y en a quand même, quoi.
Et quels sont les obstacles que vous rencontrez ?
Donc les obstacles, c'est que c'est difficile d'aller chercher, de motiver des gens qui sont pas d'accord avec nous, évidemment. C'est toujours le même problème. Donc en fait, rien que dans notre groupe de 25 personnes, on n'est pas d'accord. Heureusement, on a un accompagnement professionnel qui va vraiment nous permettre d'être fin et d'être pointu, parce que la difficulté, elle est humaine. C'est comment je fais pour travailler avec mon voisin, avec qui je m'entends pas a priori, avec qui on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes besoins. Donc en fait, les problèmes du territoire, on les trouve au sein de ce groupe projet là, et donc ça va nous permettre d'avancer globalement.
Et les finances, comment ça va?
Alors les finances, pour l'instant, donc moi je suis financée, donc mon tiers-temps est financé par le ministère de l'Agriculture, et après on répond à des appels à projets, à des appels à manifestations d'intérêt, on cherche effectivement des financements pour pérenniser l'animation et pour retaper le lieu qu'on a déjà identifié.
Voilà, inauguration prévue en décembre 2025 pour cette école-lieu au lycée agricole de Figeac, dans le Lot. Merci beaucoup Pauline Herbemont.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée. Au revoir.
C'était Carnet de campagne avec Gîtes de France. Gîtes de France, l'expert de l'hébergement chez l'habitant depuis 70 ans.